Prenons une situation de conflit ouvert, tu vois, avec une institution géante, un vrai mastodonte bureaucratique.
Ouais, le genre de structure impossible à faire bouger.
C'est ça. Et un jour, après des années de guerre d'usure, cette même institution propose la paix sur un plateau d'argent, un accord officiel noir sur blanc qui te garantit la protection.
La tentation de signer doit être immense.
Mais carrément. Sauf que, si cette signature, loin d'être une victoire, c'était en fait le déclenchement d'un compte à rebours vers ton assimilation totale, puis vers ta mort programmée. C'est exactement cette mécanique terrifiante du piège institutionnel qu'on va regarder de près aujourd'hui.
Et c'est fascinant parce que l'histoire, elle regorge de ces minorités dissidentes qui, épuisées par la marginalisation, finissent par accepter une main tendue. Sur le moment, c'est sûr, ça ressemble à un triomphe diplomatique.
Ouais, on se dit qu'on a gagné.
Exactement. Mais une grande structure, elle a toujours un avantage monumental, elle possède le temps. Elle peut très bien se permettre d'offrir des concessions immédiates, de créer des petites bulles de confort pour calmer la rébellion.
Tout en sachant que ça va mal finir pour eux.
Voilà, en sachant pertinemment que d'ici 20 ou 30 ans, elle aura complètement digéré et neutralisé la menace.
Et ces concepts de digestion d'une dissidence, on va l'explorer à travers une autopsie textuelle hyper précise. L'objet de notre analyse aujourd'hui, c'est un document qui vient de la frange la plus intransigeante du catholicisme traditionnaliste. L'auteur, c'est Florian Rouanet, et il y décortique ce qu'il perçoit comme une trahison historique.
Un texte très dense, d'ailleurs.
Très dense. Et l'article que nous examinons aujourd'hui s'intitule très exactement « Comment la pseudo-régularisation canonique sans combat ferme à refermer l'étau sur les instituts ralliés et apparentés », avec pour sous-titre « Le mirage des ralliements et la nasse vaticane », de l'illusion ecclésiadei au couperet de traditionis custode.
Alors, juste avant de plonger dans les rouages de ce texte, je pense qu'il est vraiment impératif de poser un cadre strict de neutralité. Pour ceux qui nous écoutent, on manipule ici un matériel source qui est hautement polémique.
Absolument. C'est important de le rappeler. Je suis tout à fait d'accord.
Ouais. L'auteur adopte une posture super radicale qui s'approche d'une logique cédévacantiste. Et pour définir ce terme rapidement, le cédévacantisme, c'est la croyance que le siège papal est littéralement vacant.
Qu'il n'y a pas de vrai pape, en gros.
C'est ça. Que les papes récents sont illégitimes parce qu'ils auraient basculé dans l'hérésie. Donc notre mission ici, c'est en aucun cas d'endosser ces théories ou de valider des positions théologiques, ni de prendre parti dans ces guerres internes.
On n'est pas là pour juger le fond religieux.
Voilà, on est vraiment là pour disséquer l'argumentaire et la mécanique. On va suivre les quatre chapitres du texte pour observer comment l'auteur décrit ce pouvoir central qui broie une rébellion.
Et le point d'entrée pour comprendre cette mécanique, c'est le vocabulaire. C'est fou, hein, parce que le texte n'utilise pas du tout le champ lexical de la diplomatie, il utilise celui de la chasse, de l'enfermement. Et le mot central, c'est la nasse.
La nasse, ouais. La métaphore, elle est vraiment chirurgicale. Pour ceux qui ne voient pas, une nasse dans le monde de la pêche, c'est ce panier conique tressé avec un goulot très étroit.
Où le poisson rentre facilement.
Exactement. Le poisson est attiré par un appât à l'intérieur. Il y entre sans aucune difficulté. L'environnement lui semble familier. Mais dès qu'il essaie de faire demi-tour...
Impossible.
Impossible. La forme des tiges l'en empêche. Le piège, il te tue pas immédiatement. Il maintient la proie en vie, prisonnière de son propre mouvement en avant. Et pour l'auteur du texte, le Vatican a fabriqué la nasse parfaite pour capturer ses traditionalistes.
Et le mouvement qui consiste à y entrer, il l'appelle le ralliement.
L'auteur va même plus loin, il parle de pacte faustien, genre tu vends l'âme de ton combat en échange d'une petite survie matérielle.
C'est un vocabulaire très fort ouais. Mais pour comprendre pourquoi l'appât était si tentant, il faut revenir au moment où le piège a été posé. On est en 1988. L'institution romaine traverse une crise existentielle majeure. Monseigneur Lefebvre, qui est le leader de la frange traditionaliste, qui rejette les réformes modernistes de Vatican II, il franchit le Rubicon.
Il sacre des évêques.
C'est ça, il sacre des évêques sans l'autorisation du pape. Et ça, c'est pas rien.
Ah bah c'est un séisme absolu.
En ordonnant des évêques, Lefebvre garantit que son mouvement va pouvoir survivre indéfiniment.
Il crée une hiérarchie parallèle.
Totalement. Une hiérarchie capable de former ses propres prêtres, d'avoir ses propres églises, complètement hors du contrôle de Rome. L'institution fait face au cauchemar de toute structure de pouvoir, une hémorragie de ses membres vers une entité totalement indépendante.
Donc, panique à bord. C'est ça. La réaction du pape de l'époque, Jean-Paul II, elle est immédiate avec la publication du document Ecclesia Dei.
Et en surface, ce document, ça ressemble vraiment à un rameau d'olivier. Le Vatican dit en substance « Ne suivez pas ce schisme, restez avec nous, on va vous créer un statut légal sur mesure, des instituts où vous pourrez célébrer votre messe traditionnelle en latin en toute légalité. »
Ce qui a l'air génial.
Bah oui. Franchement, c'est comme une immense multinationale qui serait soudainement terrifiée par une start-up rebelle ultra-agressive, tu vois, et qui déciderait d'offrir des ponts d'or aux cadres les plus modérés de cette start-up pour les débaucher.
Ah, l'analogie est parfaite.
On leur donne de beaux bureaux, des titres sympas, l'assurance de pouvoir continuer leurs petits projets, mais sous le giron de l'entreprise mère. Mais toi qui as lu le texte en profondeur, pourquoi l'auteur considère que c'est Rome qui était en position de faiblesse initiale?
Mais parce que, et c'est là que l'analogie du contrat de rachat d'entreprise fonctionne à fond, le cœur du problème se trouve dans les petites clauses cachées. L'auteur soutient que ce statut légal, il était empoisonné.
L'accord tacite, c'était le silence.
Exactement. On accordait aux ralliés la permission de conserver la forme de leur messe, mais en échange, paf, ils devaient cesser de combattre ouvertement les réformes doctrinales. L'appât de la nasse, c'était la promesse rassurante de la légalité. Le piège, c'était l'abandon de la substance même de la foi au profit du simple rite esthétique.
Donc les ralliés ont cru qu'ils sauvaient la tradition, alors que, selon l'auteur, en acceptant de ne plus dénoncer le système, ils se transformaient eux-mêmes en caution de ce système.
Ils devenaient la preuve vivante que le Vatican était tolérant, alors même qu'il se faisait ligoter. C'est brillant et pervers à la fois.
C'est fou. L'institution n'était pas généreuse, elle était en panique. Offrir Ecclesia Dei, c'était une stratégie d'urgence pour diviser la résistance.
Attirer les profils les plus timorés par le mirage du confort canonique, comme le dit si bien la source.
Mais attends, pour qu'un piège fonctionne sur la durée, il faut que la proie s'installe, non? Qu'elle oublie qu'elle est dans une cage. Ce qui nous amène à observer la période d'accalmie. Près de 20 ans plus tard, en 2007, un nouveau jalon est posé. Et là, c'est l'euphorie totale chez les ralliés.
Ah oui, 2007, le pape Benoît XVI publie un motu proprio, donc une lettre apostolique de sa propre initiative, qui s'appelle « Summorum Pontificum ».
Et ça, c'est perçu comme une bombe.
Une bombe absolue. Parce que ce texte déclare formellement que la messe traditionnelle n'a jamais été juridiquement abrogée. Le document invente une dualité, la messe moderne devient la forme ordinaire et l'ancienne messe devient la forme extraordinaire.
Mais là, je me fais l'avocat du diable deux secondes. N'importe quel groupe dans cette situation aurait crié victoire, non? Comment on peut leur reprocher d'avoir cru à cette paix? C'est la validation ultime du chef suprême.
C'est vrai, ça a tout l'air d'un triomphe. Mais l'auteur démolit cette lecture avec une formule que je trouve glaçante. Il parle de la création d'un, et je cite, « parc zoologique liturgique ».
Un parc zoologique?
Ouais, et cette image du zoo, c'est la clé de voûte de son argumentation. Pense à un zoo. Les animaux ont l'illusion de la nature. On leur donne des faux rochers, un peu d'herbe, on les laisse faire leur petit comportement.
Mais tout ça derrière une vitre blindée.
Voilà. En transformant la messe en simple sensibilité ou en forme extraordinaire, le Vatican a déconnecté le rite de sa doctrine fondamentale. La messe ancienne n'était plus le porte-étendard d'un combat théologique, elle était ravalée au rang de simple option esthétique pour un public de niche.
En gros, on tolère les traditionalistes tant qu'ils portent leurs beaux habits et chantent en latin, à la stricte condition qu'ils restent bien sagement dans leur enclos et qu'ils ne viennent pas critiquer les autres pavillons du zoo.
C'est exactement ça. Et le problème d'un zoo, bah c'est qu'on ne choisit pas qui détient les clés de la cage. On s'en remet totalement à la bienveillance du directeur de l'établissement.
Et les directeurs, ça change.
Les directeurs changent. Ce transfert total d'autonomie, c'est la faille mortelle du légalisme que dénonce la source. Si tu acceptes que ton privilège soit une concession administrative, tu acceptes que cette administration puisse le révoquer.
Et le réveil brutal, il n'a pas commencé par des grandes annonces fracassantes. C'est ça qui est dingue avec les bureaucraties. Ça commence toujours par un truc super ennuyeux. Une réorganisation structurelle.
Ah, la fameuse absorption de 2019.
C'est ça, ben, le texte pointe l'année 2019 comme le signal silencieux d'une purge imminente. La commission Ecclesia Dei, qui était un peu leur organisme indépendant, leur guichet unique bienveillant, est soudainement absorbée par les structures ordinaires du Vatican. Et comment on passe de ce contrôle canonique à la perte d'autonomie concrète?
Ben, c'est très simple. En perdant cette commission protectrice, ils ont perdu leur bouclier. Concrètement, ça veut dire que la paperasse, les demandes de création de paroisses, les ordinations, tout ça devait désormais passer par le circuit classique.
Avec des gens qui ne les aiment pas forcément?
Surtout avec des responsables locaux qui leur sont farouchement hostiles. T'as même plus besoin d'interdire la messe. Il suffit de noyer leurs demandes sous des mois de silence administratif. L'air se raréfie, la cage se referme.
c'est la mort par asphyxie bureaucratique. Et une fois que la proie est bien affaiblie, désorganisée, bim, en 2021, le coup près final tombe, le pape François publie le document « Traditionis Custodes ».
Là, c'est la fin du zoo. Le texte de 2021 efface complètement l'illusion de 2007. Le mythe des deux formes qui coexistent, c'est fini. Le missel moderne est décrété comme étant l'unique expression du rite.
Et les restrictions pleuvent.
Du jour au lendemain, des restrictions drastiques sont imposées sur l'ancienne messe. Le document dit carrément que l'objectif à terme, c'est de ramener tout le monde à la nouvelle liturgie. Le zoo est programmé pour la démolition.
La désillusion des ralliés dans le PEXT, elle est palpable. Ils découvrent qu'ils sont réduits à devoir mendier la permission de célébrer leur propre messe. C'est la faille totale de leur pari légaliste de 1988. Mais il y a un détail fascinant soulevé par la source.
Le paradoxe Bergoglio.
Voilà. Le pape François, qui étouffe complètement ses ralliés soumis, se montre étrangement clément avec la fameuse Fraternité Saint-Pied-X, la FSSPX. Cela même qui avait refusé l'accord en 88.
C'est un double jeu ironique, ouais. La FSSPX, c'est ceux qui sont restés hors du zoo, dans la nature. L'institution s'acharne sur ceux qui ont plié le genou tout en respectant secrètement ceux qui l'ont défié. Le texte mentionne que le pape admire le travail brut de la FSSPX, surtout auprès des pauvres en Argentine.
Donc, le dirigeant méprise celui qui rampe, mais respecte l'adversaire qui garde sa colonne vertébrale. C'est une sacrée leçon politique.
Une leçon terrible. Se soumettre par stratégie ne rapporte même pas la paix, ça rapporte le mépris.
Alors, face à cet échec cuisant, quelle est la solution de l'auteur? Si le compromis mène à l'abattoir, c'est quoi l'issue?
Pour l'auteur, c'est binaire. La seule issue, c'est la résistance intégrale. Le texte donne raison à Mgr Lefebvre, a posteriori. Il ne fallait signer aucun accord canonique sans un accord doctrinal préalable.
On ne partage pas le même toit si on ne croit pas aux mêmes fondations, en gros.
Exactement. Et le texte convoque d'autres voies historiques pour appuyer cette intransigeance. L'auteur cite l'abbé de Nantes, par exemple, qui allait jusqu'à réclamer un procès pour hérésie contre le pape dès 1973.
Ah oui, carrément.
Ou encore Noël Barbara, qui était lui sur une ligne cédévacantiste assumée.
Et il y a aussi cette phrase de l'abbé Koch, qui résume tout. Il déclare « Le peuple chrétien a vu et il a dit non ».
C'est puissant, ouais. Soumission égale extinction. Pour la source, seule la résistance préserve le feu sacré. D'ailleurs, cette mouvance est hyperactive pour perpétuer sa vision. Ils ne cherchent plus à convaincre Rome, ils créent leur propre écosystème.
Ils produisent du contenu, c'est ça?
Ouais. Par exemple, le texte mentionne la préparation d'une série documentaire appelée Traditio, sous-titrée « Pour l'amour de l'Église ».
Ah oui, j'ai vu ça. Prévu pour juin 2026. C'est du bien ça.
C'est ça. Une série en trois parties. Devenir prêtre, être missionnaire, donner sa vie. L'objectif, c'est de forger un nouvel imaginaire en dehors des circuits officiels.
C'est passionnant. Et c'est pour ça que ce conflit ecclésiastique interne, eh ben, il est super pertinent, même si on s'intéresse juste à la sociologie ou à la politique. Parce que c'est une étude de cas parfaite sur la manière dont une grande institution neutralise la dissidence.
En offrant des concessions pour désarmer avant d'assimiler de force. L'histoire des ralliements liturgiques, c'est la chronique d'une mort annoncée, de l'illusion d'Ecclesia Dei à la répression de Traditionis Custodes.
Et ça nous émet à une réflexion finale vraiment vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Si on sort du cadre religieux, pensez au mouvement technologique, par exemple, né dans la dissidence, les pionniers du web décentralisé.
Ah, excellent exemple.
Au début, le système les combat. Puis, il leur propose une intégration, des rachats, la promesse de garder leur esprit open source. Les rebelles sont fatigués, ils signent. Ils entrent dans leur petit parc zoologique numérique.
Et 10 ans plus tard, les règles changent et ils sont étouffés.
Exactement. Alors la question que ça soulève, c'est si l'intégration finit toujours par diluer les idéaux d'une minorité, est-ce que la véritable pureté d'une conviction ne peut survivre qu'en acceptant une marginalisation totale et perpétuelle? Le confort de la légalité est-il toujours l'ennemi de l'authenticité?
C'est une excellente question à méditer.
Je vous laisse y réfléchir.